Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle des sorties, on vous parle des conférences, des news, de tout ce qui est intéressant dans l'univers du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un épisode, un petit peu spécial. Normalement, ceux qui suivent bien la périodicité de l'émission se souviennent qu'il n'y a pas d'épisode normalement aujourd'hui. Et pourtant, on est là quand même parce qu'il y a juste trop de trucs et je pouvais pas vous abandonner. Je suis un petit peu comme Rick Astley, en fait. Je never gonna give you up. Mes auditeurs sont ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie. Oui, de toute la vie. Et le rire malicieux que vous entendez est celui de Johan Tirapati qui nous rejoint encore une fois après nous avoir parlé de Destiny il y a quelques semaines. Comment tu vas, Johan?
Ça va très bien. Toujours un plaisir d'être dans l'émission. Donc tout roule.
Ça me fait plaisir de t'avoir aussi, et je disais rire malicieux, on comprend bien que c'est parce que tu as joué à Mario Odyssey et que donc ta vie est remplie d'une joie absolument indescriptible maintenant.
C'est exactement ça, oui, tout à fait.
Bon, on va vous parler effectivement de Mario Odyssey, on va vous parler un tout petit peu d'Assassin's Creed Origins qui a de bonnes reviews et que Johan a un petit peu essayé, mais enfin pas autant que Mario, donc ça va être principalement Mario, c'est ça?
C'est ça.
Et on va également vous résumer un petit peu la conférence de Sony de la Paris Games Week qui vient tout juste de se terminer il y a genre 20 minutes, donc c'est tout chaud. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à énormément de choses. Moi, j'avoue que j'ai été assez agréablement surpris quand même parce qu'il a été présenté. Donc, je sais pas, juste en deux mots, toi, est-ce que t'as été agréablement surpris ou plutôt déçu de cette conférence?
Ouais, plutôt surpris, surtout quand on fait le rapport avec ce qu'ils ont présenté à l'E3, c'était, on va dire, d'un calibre équivalent, voire supérieur.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que généralement, ces conférences-là sont des petites conférences locales où il y a moins de gros titres. Bon, c'est pas que là, il y avait des trucs incroyables, il y avait beaucoup d'updates, mais quelques trucs intéressants quand même. Et puis surtout, on est à un mois, cinq semaines de la PlayStation Experience qui a lieu début décembre depuis quelques temps. Et du coup, ils doivent en garder sous le coude quand même pour la PlayStation Experience. Et donc, on s'attend pas à ce qu'il y ait des choses intéressantes dans les conférences d'avant. Mais bon, là, visiblement, ils avaient de quoi alimenter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris. On va vous en parler dans un moment. Mais avant tout, Johan, impression sur Mario Odyssey, qui est sorti il y a quelques jours de ça, le deuxième gros jeu de l'année sur la Nintendo Switch. Toi, ta relation à Mario, à Nintendo, à la Switch, pour mettre un petit peu le cadre, c'est quoi?
Alors, ma relation à Mario, c'est que un jour, j'étais très jeune, je suis pas très console, ouais. Et j'ai vu tourner Mario 64 à Noël. Donc c'était le cadeau de mon cousin et j'ai économisé un an et je me suis privé de repas un an pour économiser les sous du midi pour m'acheter. Donc c'est la première console que je me suis acheté moi-même avec Mario 64. Et oui, donc c'est vraiment un jeu, une série de jeux qui est vraiment très très cher à mon cœur. Donc toute la série des Mario vraiment 3D, je les aime tous beaucoup et j'attendais celui-là avec un petit peu d'appréhension. Mais j'étais quand même déjà assez confiant de ce que j'avais vu, donc j'étais, on va dire, bien formaté pour aimer le jeu.
D'accord. Moi, je suis un petit peu dans la situation des Mario 2D plutôt. Mon premier choc, je jouais à Super Mario Bros en arcade carrément, donc ça remonte. Oui. Mais mon vrai premier gros choc d'amour avec Mario, c'était Super Mario Bros. Et c'est vrai que c'est un jeu que je refais avec plaisir régulièrement. Et les jeux 3D type 64, Sunshine, Galaxy, etc., c'est un petit peu moins comment dire, pas ma tasse de thé, je les aime beaucoup aussi, mais c'est, j'y suis moins habitué et puis c'est moins mon truc. Et donc j'attendais aussi Mario Odyssey avec un petit peu d'appréhension, mais beaucoup d'espoir. Et en plus de ça, si on met tout ce qu'il y a autour de la Switch, dont on a déjà parlé, qu'on va pas ressasser encore une fois, encore qu'on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure avec les premiers résultats et les estimations revues de vente de Switch de Nintendo, mais effectivement, il y avait beaucoup d'anticipation autour de ce titre. Je vais peut-être décrire un petit peu de quoi il s'agit, comment il fonctionne, et puis on partira dans nos impressions juste après, si ça te convient.
C'est très bien.
Alors, Mario Odyssey, donc, c'est le premier jeu Mario pour Nintendo Switch de Nintendo, et c'est un jeu Mario type 3D, comme tu l'as très bien dit. Il y a il y a deux écoles dans les jeux Mario. Il y a les jeux 2D et les jeux 3D. Parfois, ça se mélange un petit peu, comme Super Mario 3D World, où on évolue quand même en 3D, mais les principes de plateforme sont quand même plus de la 2D, et puis on est souvent dans des niveaux linéaires. Il y a un début, une fin, et puis on doit traverser le niveau et acquérir des objets ou battre des monstres dans la progression du niveau. Dans les 3D, c'est un petit peu plus, bon, on va utiliser d'énormes guillemets, c'est un petit peu plus du open world, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça, avec vraiment des grosses guillemets. Et dans le cadre de Mario Odyssey, on a des royaumes, des kingdoms, qu'on va traverser et qui sont vraiment ouverts, on peut aller où on veut. Et les royaumes sont relativement vastes, relativement larges, et on doit, le ressort principal de ce jeu-là, c'est que on va aller récupérer les lunes qui sont cachés, camouflés un petit peu dans tout le niveau, pour alimenter notre vaisseau chapeau. Et notre vaisseau chapeau va pouvoir voyager, une fois rempli avec l'énergie des lunes, va pouvoir voyager d'un royaume à l'autre. Donc, à chaque fois qu'on arrive sur un royaume, il y a une petite mission à accomplir en quelque sorte. Il y a les méchants sbires de Bowser qui foutre le bordel d'une manière ou d'une autre, et on doit donc les corriger, et puis ça change un petit peu l'ambiance du royaume, et on passe au royaume suivant. Bien sûr, ce qui est très clair tout de suite, c'est que on peut explorer le royaume sur lequel on est bien au-delà de cette première étape de la chose qu'il faut faire sur ce royaume. Et il y a beaucoup de lunes à récupérer de différentes manières. Alors parfois c'est de l'exploration, parfois c'est du platforming, parfois c'est des petits puzzles à résoudre, etc. Alors ça, c'est la partie de mécanique du jeu. L'autre partie, c'est c'est la partie de progression du jeu, mais l'autre partie, c'est la partie mécanique vraiment, et capacité qu'a Mario de capturer les ennemis avec son petit chapeau qui s'appelle Capi, qui est un chapeau intelligent, qui est le partenaire de cette aventure. Et quand on jette le chapeau sur un ennemi, dans, on va dire, 80 ou 90% des cas, on peut contrôler cet ennemi et donc bénéficier de ses capacités particulières. J'ai entendu des gens le décrire comme un jeu Mario où on aurait des dizaines et des dizaines de costumes Mario différents qui ont chacun des capacités différentes. Je pense que c'est une description qui n'est pas totalement fausse. Donc voilà pour le décor posé. Johan, toi, quelles sont tes impressions sur le jeu ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, bah déjà, c'était vraiment un bonheur en fait de reprendre la main comme ça sur Mario. C'est un genre de jeu, donc le platformer 3D, qui est quand même, on va dire, un peu en voie de disparition. Les productions en général sont plutôt de l'ordre du jeu indé ou en tout cas pas des triple A, et du coup c'est un genre que j'aime beaucoup et c'est légèrement que vis-à-vis de ça, et du coup bah c'est un peu facile, on va dire, de m'avoir sur ce genre de mécanique là.
Ouais, t'es client à la base quoi.
Voilà. Après donc sur l'approche, j'avais été un tout petit peu refroidi au cours de ma progression dans l'histoire, dans le sens où j'avais vraiment cette sensation de linéarité, c'est-à-dire donc effectivement on est amené dans un monde, on poursuit Bowser, on résout quelque chose et puis on passe au monde suivant, Et finalement, ça me paraissait un petit peu linéaire, en plus d'être très facile. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais ces premières lunes qu'on récupère sur chaque monde, vu qu'il y a énormément de lunes en fait dans chaque monde, le simple fait de se balader dans le monde va faire qu'on va croiser une, deux, trois, quatre, cinq, voire plus sur le chemin du boss.
Disons qu'il y a pas, il y a effectivement pas énormément de difficultés mécaniques, ni même pour retrouver les lunes pour passer au royaume suivant. Ce qu'on peut dire, c'est que moi, par rapport à ça, j'ai à chaque fois que je passe un royaume, enfin sur les premiers en tout cas, j'avais l'impression d'être hyper malin, tu vois, j'observais un petit peu à droite à gauche, je regardais et je trouvais plus de lunes que celles qui étaient absolument évidentes. Et un truc qui est assez surprenant, c'est que tu te balades, on va pas spoiler hein, le jeu, mais bon, enfin on va en parler quand même, mais sans spoiler, donc vous pouvez écouter, à moins que vous vouliez vraiment tout découvrir par vous-même. Mais un truc qui est marrant, c'est que tu te balades, tu fais le truc, tu as suffisamment de lunes. Et puis tu regardes, tu te dis ouais là j'ai été malin, j'en ai genre il en fallait 10, j'en ai 15, donc ouais je dois être quand même un petit peu tu vois au trois quarts de toutes les lunes qu'il y a. Et puis tu vois le nombre de lunes qu'il y a dans ce royaume, et puis c'est pas 20, c'est pas 30, c'est genre 60 qu'il y en a. Donc tu te dis mais où elles sont quoi, c'est pas
exactement
possible. Donc ça c'est assez surprenant la première fois.
Ouais, donc voilà, j'ai parcouru, on va dire, toute l'histoire de manière, enfin, j'ai traversé de manière assez, sans vraiment me creuser la tête. Et donc du coup, j'ai pu voir les crédits de fin, et en fait, il se passe quelque chose à la fin qui te relance, on va dire, dans le monde avec de nouvelles choses à découvrir. Donc je pense que c'est pas propre à Mario Odyssey. Je pense que c'est un peu comme ça dans les autres Mario.
C'est un peu toujours le cas, ouais. Dans la plupart des Mario, tu finis le jeu, mais enfin, c'est genre t'es à la moitié, quoi.
Mais t'as vraiment un texte qui te pousse à continuer, hein, qui te dit ouais, va voir par ici par là, et donc t'as plus de lunes, donc t'as d'autres lunes qui se rajoutent au monde que tu t'avais pas accès avant. Et c'est là qu'on découvre en fait qu'il y a un vrai challenge dans le jeu. Donc il y a certains modes de jeu, on va dire, qui sont revisités en mode plus difficile. Je vais pas en dire beaucoup plus de peur de spoiler, mais du coup là j'ai passé, en fait c'est assez parfait parce que j'avais mon émerveillement sur voilà, je joue un platformer 3D, c'est Mario, donc j'étais tout content malgré que ce soit trop facile, et le temps que s'estompe, on va dire, la simplicité d'avoir accès à ce jeu là j'avais maintenant accès à du challenge qui me stimulait en fait d'un point de vue gameplay, d'un point de vue challenge.
Donc là, t'es satisfait à ce point de vue
là,
aussi.
Je suis vraiment satisfait. Donc là, pour dire un peu où j'en suis à 260 lunes. Je crois qu'il y en a 800 ou quelque chose comme ça.
Ouais, même plus.
700,
ouais.
Ou voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai encore énormément de choses à faire. Effectivement, comme tu le disais, il y a des mondes que j'ai déjà retournés de fond en comble, et je vois que j'ai même pas fait un dixième des lunes dessus. Et quand j'en trouve une nouvelle, je dis mais comment je suis passé à côté de celle-ci, elle était super évidente, ou au contraire, je vais tomber sur un challenge que j'avais loupé et qui est hyper chouette à faire. Donc j'ai encore de belles heures de jeu devant moi sur ce titre-là. Donc là, maintenant que je l'ai, on va dire, rushé, entre guillemets, il va passer en mode pique-nique, c'est-à-dire que vu le nombre de lunes, ça s'adapte très bien à des sessions plutôt courtes. On va dire bon, je l'allume, je vais faire une ou deux lunes. Et puis hop, je passe sur un autre jeu ou je fais autre chose. Donc je sais qu'il va me tenir encore quelques mois facilement.
Ouais. C'est vrai que il y a des gens qui se plaignent de cet aspect. Le nombre de lunes est trop élevé et du coup ça fait un petit peu liste à remplir. Moi, jusqu'à maintenant en tout cas, j'ai pas fini la première partie narrative. Il doit y avoir quoi, une dizaine d'heures sur la première partie. Et puis après, donc ça continue. Mais donc j'ai pas fini cette première partie. Mais le truc, c'est que les lunes, c'est pas des listes à la jeu open world classique, enfin style Assassin's Creed ou Dieu sait quel jeu, ou Horizon ou ce genre de truc. C'est plutôt des motivations pour aller faire des activités. Et il y a 1000 activités différentes et toutes sont sympas et toutes sont originales. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai pas refait deux fois la même chose. Et à chaque fois, c'est des trucs intéressants et sympas à faire. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai pas eu l'impression de me dire, ah bah, j'ai encore 150 lignes à devoir trouver, 150 lunes à devoir trouver. Et du coup, ça va me saouler, quoi.
Ouais, non, exactement. On est très loin des noix de, enfin, des Korok dans Zelda.
Voilà, c'est un petit peu ce que pensent les gens.
Et puis, donc, du coup, on a, en fait, via le menu pause, on a clairement la liste, enfin, une liste vide. Tu vois le nombre de lunes qu'il y a d'accessibles sur le monde. Donc, la liste est vide. Et donc, elle se remplit au fur et à mesure que tu trouves les lunes, bien sûr, mais tu peux, donc tu as différents moyens d'avoir des indices. Donc il y a un perroquet sur chaque monde qui te donne un titre, parce que chaque, un peu comme dans Mario 64, chaque lune a son titre, qui donne en fait un indice sur comment la débloquer. Et donc tu as un perroquet qui te donne de temps en temps des titres, donc tu les vois s'ajouter à ta liste en grisé, donc ça veut dire que tu l'as dans ta liste, mais tu l'as pas encore trouvé. T'as aussi un moyen d'acheter pour 50 pièces, donc c'est rien du tout, un point sur la map. Donc en gros, Todd va t'indiquer un point sur la map. Donc tu peux voir la map à tout moment et voir qu'à cet endroit-là, il y a une lune quelque part. Donc après, à toi d'aller chercher si c'est une énigme. En tout cas, ça te donne quand même, t'as quand même de quoi chercher au bon endroit. T'es pas perdu dans un monde ouvert à chercher 9000
petits machins. C'est pas trop simple avec les indices de Todd. Moi, j'en ai pas pris encore, mais...
Ben, des fois c'est très simple parce que il y a certaines lunes où il faut juste faire une attaque rodéo sur un truc un peu lumineux. Donc effectivement, quand tu vas au point indiqué et que t'as un point lumineux, ben c'est pas trop dur.
Ouais.
Mais parfois, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Ou alors tu passes à côté de quelque chose d'évident, ça peut arriver aussi. Mais bon, en tout cas, ça te permet quand même de toujours progresser, c'est-à-dire de pas être coincé vraiment trop longtemps sur. Sûr, il me manque une lune.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, mais voilà, c'est une petite assistance. On peut s'en passer aussi si vraiment on veut tout trouver tout seul. Mais en tout cas, ça te permet voilà d'avoir une progression constante. Et puis il y a tellement de lunes de toute façon que voilà, c'est pas.
Et puis c'est toujours. Mais en fait, le truc qui moi m'a le plus plu, c'est et qui me fait penser que les gens qui disent ah mais c'est que des listes à remplir, en fait, ils ont trop à l'esprit les jeux monde ouvert avec effectivement des listes à remplir. C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, le fait que pour chaque lune, c'est des trucs sympas à faire. C'est pas juste des trucs, enfin de mon expérience en tout cas, ça se trouve ça change après, mais c'est pas juste collectionner les 60 000 les 60 artefacts répartis dans le monde qu'il faut juste trouver. Et c'est des encouragements à aller faire des trucs sympas dans le jeu, quoi.
Ouais, tout à fait. En fait. Il faut un peu séparer les deux mécaniques, c'est-à-dire que dans un monde ouvert, on a tout un gameplay avec une histoire, avec des objectifs bien précis, et ces éléments à aller fouiller, chercher, c'est des choses annexes. Là ici, c'est l'activité du jeu, c'est-à-dire que le but c'est d'aller trouver les lunes. Donc on n'est pas sur une activité annexe faite à la va-vite, là c'est vraiment des objets qui sont faits pour être trouvés, donc qui poussent à faire de la plateforme, à résoudre des petites énigmes, ce genre de choses-là.
Et moi, à chaque fois, j'en ai plus, je dois être à 120 lunes, et comme je disais, il n'y a pas eu deux fois le même truc à faire, quoi. Donc, parfois, c'est très simple, il faut aller quelque part et aplatir un truc, et voilà, ou juste, enfin, parfois, c'est très simple, c'est sûr, mais c'est généralement intéressant. Et ça nous amène à un autre élément du jeu qui est vraiment enchanteur, et c'est justement à quel point il est enchanteur. Et ça, c'est difficile à décrire ou à expliquer. C'est un design qui... Enfin, je sais pas, quand tu contrôles un des ennemis, à chaque fois, c'est un truc sympa. C'est une mécanique qui est différente de la mécanique de contrôle de Mario. Et c'est ils sont tous agréables et marrants et différents. Il y a pas de remplissage, en fait, j'ai l'impression. Encore une fois, jusqu'à maintenant... Et puis surtout, ça donne le sourire, quoi. C'est, je sais pas, c'est une question de design, d'animation, de son. Les sons sont vraiment recherchés et agréables et sympathiques. Et c'est enchanteur, c'est charmant, c'est sourifiant, tu vois. Ça, moi, j'ai... La première créature que tu contrôles, c'est une grenouille. Et tu vois la grenouille avec le chapeau de Mario et la moustache, et elle saute un petit peu partout, mais tu peux pas t'empêcher. C'est la première fois que j'ai une expérience où vraiment je me dis, c'est un plaisir d'enfant. Tu vois, j'ai 44 ans, et quand je joue à ce jeu, je retrouve un plaisir que j'imagine, tu sais, le plaisir innocent et enchanté d'un enfant qui découvre un truc qui lui fait plaisir. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas vraiment cynique, mais enfin, ce genre de truc, ça me parle pas du tout, généralement, quoi. C'est vraiment genre, oh mon, la Madeleine qui me fait me revenir en enfance et qui me rappelle comment j'étais quand... Moi, c'est vraiment pas pour moi. Et ce jeu, il fait... C'est pas qu'il me rappelle des souvenirs, mais c'est juste qu'il me, il me fait penser, il m'amène dans un endroit psychologique où je me dis, c'est ça le plaisir qu'on a quand on a l'innocence de l'enfance. Et vraiment, c'est un voyage, quoi, ce truc. L'Odyssée est, est un terme bien trouvé parce que ça me, ça emmène le joueur pas dans une aventure, genre, on visite des mondes incroyables. Ça te, c'est, ce plaisir, ces sourires que ça t'amène, qui sont pour moi une partie, non négligeable du jeu. Est-ce que je suis, je délire un petit peu, ou est-ce que tu ressens ça aussi?
Non, mais alors là, on est, enfin, je pense qu'on est clairement dans la, un peu dans la magie Nintendo. C'est vraiment tout un, c'est tout un univers. Je pense que ça tient beaucoup aussi de la DA et voilà, et de ces personnages là qui sont très colorés, ce qu'on c'est tout, c'est vraiment du fun, tout est là pour te donner du fun, que ça soit visuellement, les mécaniques, il y a vraiment quelque chose de très premier degré sur l'amusement que tu as vis-à-vis du jeu, c'est-à-dire que tu prends tout de suite plaisir à juste te déplacer, à sauter partout, à écraser tous les trucs, à détruire tous les blocs, voilà, enfin c'est, il y a vraiment quelque chose de très voilà, de facile d'approche, en fait, c'est vraiment du fun accessible tout de suite, maintenant. Il n'y a pas de mise en contexte à faire pendant des heures, des mécaniques à apprendre pour commencer à maîtriser le jeu. Non, c'est, tu as la manette en main et c'est fun tout de suite.
Ouais. C'est très juste ce que tu dis sur le fait que les mécaniques, les core mechanics, les mécaniques de base du jeu, courir, sauter, etc., sont... enjoyable, pleasurable. Je suis désolé, je fais un petit peu mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est les termes, choisis les langues qui ont les termes les mieux adaptés à ce que je veux exprimer précisément, mais c'est vraiment ça, c'est que ces mécaniques de base sont agréables et te procurent du plaisir, finalement. Et le fait qu'il y ait les mécaniques de Mario, d'une part, bien sûr, mais les mécaniques de ces dizaines d'ennemis qu'on peut contrôler aussi, ça te donne l'occasion, en tant que joueur, de redécouvrir ce plaisir comme la première fois, à chaque fois que tu contrôles une nouvelle bestiole. Et bon, évidemment, les mécaniques des différentes bestioles sont très simples, donc c'est sympa, 5-10 minutes ou 15 minutes, mais pas sur un jeu de 10 heures, évidemment. Mais il y en a tellement que à chaque fois, tu te dis, ah, je me demande ce que je vais faire avec cette nouvelle bestiole, et puis tu la contrôles, et ça te dit, ah, voilà les contrôles pour ça. Et là, ça te redonne le sourire. Enfin, il y a ces sortes de mille pattes, là, qui peuvent s'étendre, et enfin, mais j'ai pas donné trop d'exemples, mais il y en a plein. Le machin qui saute tout le temps avec son, ah, oh, mais c'est, bon, je suis plus très cohérent, mais.
Et l'autre, le tour, un peu tour de force de Nintendo sur ce point-là, c'est que du coup, on se retrouve avec un jeu avec, on va dire, plusieurs dizaines de gameplay, on va dire, différents.
Ouais.
De façon de contrôler son personnage différent. Et Nintendo, ça s'est arrangé pour que quand tu rencontres à chaque fois un nouvel ennemi pour la première fois, tu comprennes très vite à quoi va te servir ce personnage. Et donc, il y a comme un mini tuto, comme par exemple, quand on va contrôler le boulet de canon, on va très vite être confronté à un mur. Si tu le passes pas, tu te détransformes et tu tombes. Donc tu comprends qu'il faudra, on va dire, éviter de se cogner n'importe où. Ou tu verras que les trucs destructifs sont détruits. Et tu tombes dans un endroit où tu meurs pas tout de suite. C'est-à-dire que tu peux remonter. Voilà, ils ont vraiment fait en sorte que les premières fois que tu rencontres une nouvelle chapimorphose, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ah oui. en anglais, c'est capture. C'est moins drôle quand même que chapimorphose. C'est pas mal, la chapimorphose.
Et du coup, ouais, c'est t'as une mise en contexte, un mini tuto, on va dire, implicite, qui est assez bien foutu à chaque fois.
Mais alors ça, c'est le génie de game design de Nintendo, effectivement. On peut se dire, le truc, c'est que une fois que tu le vois, tout ça paraît absolument évident. Et si t'as un tout petit minimum de compréhension de ce que c'est que le game design, si t'as un tout petit peu d'expérience de jeu vidéo, tu vas le voir parce que ça se comprend. Mais, il n'empêche que pour un joueur, ça reste complètement transparent. Tu peux le voir si tu essayes de regarder derrière le rideau un tout petit peu, mais 90% du temps, c'est juste que tu le fais, et ça fait la conséquence, en fait, pour le joueur, c'est que t'es jamais frustré. t'es jamais confronté à une nouvelle situation où on te pose une difficulté parce que tu n'as pas su. Enfin, il y a une difficulté qui t'est posée et qui ne t'a pas été, dont on t'a pas donné les clés auparavant. Donc c'est pour moi, je trouve ça vraiment effectivement il y a un savoir-faire de Nintendo qui est invraisemblable et une réussite à ce niveau-là qui est je comprends pas comme enfin si je comprends mais pour moi la réussite est c'est pas le meilleur jeu Mario de l'histoire et je crois qu'il ne réussit pas à pousser les limites de son histoire comme l'a fait Zelda au début de l'année. Il reste quand même, ça reste un Mario monde ouvert relativement classique, mais enfin, je crois que si on n'avait pas eu Zelda en début d'année, on serait dit un Mario incroyable qui réinvente presque le jeu. On est à la frontière de la réinvention.
Alors il y a deux choses à voir qui sont importantes, c'est que Zelda arrive dans un contexte qui est très différent du Mario, c'est-à-dire que le action RPG en open world, il se trouve dans un environnement qui est blindé de chez blindé de jeux excellents. Il y a vraiment une concurrence féroce sur ce domaine-là, et donc le tour de force de presque réinventer l'appréciation d'un open world, c'était un vrai tour de force. Ici, c'est très différent. Il n'y a pas vraiment de platformer 3D. Mario est quasiment le seul à en faire. Et du coup, il n'est pas confronté, on va dire, à des idées vraiment extérieures et nombreuses pour s'en réapproprier, comme ce qu'avait fait Nintendo pour Zelda.
C'est pas faux. Ouais, il y a des ukulele, des trucs comme ça qui arrivent depuis quelques temps, mais enfin bon, oui, ça reste anecdotique.
Il y a des ambitions, ukulele, c'est une ambition de refaire la même chose qu'avant, il y a pas vraiment une ambition d'avancer. Et du coup, c'est peut-être plus compliqué, du coup, d'avoir de nouvelles idées s'il n'y a pas des concurrents plus, on va dire, plus tenaces sur ce genre-là. Ouais.
C'est pas faux, c'est pas faux. Une dernière précision, peut-être, quand même, on pourrait craindre que dans ce contexte, Mario, enfin le jeu dépossède son gameplay de Mario lui-même et qu'on joue pas suffisamment Mario en fait. Et c'est pas le cas. On est vraiment malgré toute cette ce foisonnement de d'expériences différentes, on reste, j'irais, je sais pas, 80% du temps à jouer Mario lui-même. Donc ça reste un truc, ça reste un vrai jeu Mario avec le plaisir de Mario. Mais sincèrement, moi, je suis, l'inventivité et la variété des expériences que propose Nintendo avec ce jeu est, ça t'explose l'esprit, quoi. Il y a des trucs, je pense encore aux courses avec les gros machins, là. Enfin, il y a des, le machin dans le monde de l'eau, où tu contrôles la petite pieuvre. Mais il y a tellement de trucs, c'est d'une richesse vraiment incroyable. Et à chaque fois que tu, je me répète, mais à chaque fois qu'on fait un pas dans un nouveau monde ou avec un nouvel ennemi, on retrouve ce sourire. C'est un jeu qui donne la banane, c'est invraisemblable. Et même le design n'est peut-être pas le plus beau design qu'on ait vu de notre vie pour un jeu Mario ou un jeu Nintendo.
Surtout les méchants lapins là qui sont un peu.
Ah moi je les aime bien.
Ah ouais, tu les aimes bien. Moi je sens
un peu. Non, je pensais plus au monde des sombreros ou au monde de New York là, enfin de New Donk City.
Ah, t'aimes pas le monde de New York finalement?
Bah je l'aime bien. J'aime tout bien. Mais je trouve qu'il n'y a pas, par exemple, je pense toujours à Mario 3D World sur Wii U, dont les auditeurs se souviendront que je disais que c'était pour moi un jeu vraiment où on voyait, entre autres qualités, la puissance du design simple de Nintendo graphique, avec la première console vraiment HD, parce que c'était la première console vraiment HD de Nintendo. Et là, je trouve que j'ai pas le même l'émerveillement vient pas de là, tu vois. Je trouve que le design est sympa, mais il y a plein de trucs tellement cool aussi. Les voix des habitants des différents royaumes, les costumes que peut porter Mario. Il y a plein de choses, et encore une fois, il y a des pièces différentes par royaume, et elles sont toutes cachées dans le monde en plus des lunes. Et ça aussi, c'est l'occasion d'aller parcourir, explorer et tomber sur des trucs super surprenants. Enfin, j'ai l'impression que la seule raison pour laquelle Mario Odyssey n'est pas le jeu de l'année pour moi direct, c'est qu'il y en a tellement d'autres qui sont aussi des jeux de l'année, en fait. Encore une fois, c'est oui. L'Axiom 2017, c'est une année tellement incroyable que même un jeu comme Mario Odyssey, je suis pas complètement... Bon, faudra que je continue à jouer, mais je suis même pas complètement convaincu qu'il soit, pour moi, jeu de l'année, alors qu'il m'enchante et qu'il m'émerveille. Donc... C'est pour moi clairement une réussite comme je dis parfois avec ces jeux qui me m'enchantent, une réussite totale quoi. J'ai très peu de choses à lui reprocher. À la limite les motion control qui sont pas pratiques, à moins d'avoir spécifiquement les deux manettes une dans chaque main, et ça j'adore pas contrôler le jeu comme ça, et il y a quelques trucs petits trucs que tu peux pas faire sans, qui sont pas vraiment nécessaires, mais bon, je trouve que c'est un petit peu poussé au forceps, quoi.
Oui, je pense que les choses qu'on peut pas faire, c'est juste un chapeau à contrôler. Enfin, je sais pas, moi
c'est
j'ai.
C'est ça. C'est genre le chapeau vers le haut, le chapeau vers le bas ou le chapeau qui.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, il y a ces deux trucs et le chapeau qui va comment dire viser les ennemis automatiquement.
Ouais.
Voilà, mais c'est le
j'ai
seul.
Joué sans,
voilà. Ouais. Donc voilà pour moi un excellent jeu. Je sais pas si on fait pas vraiment de notes, mais il est concurrent pour jeu de l'année. C'est juste que je suis pas sûr vu qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que c'est le cas aussi ou moins pour toi?
Non, moi j'ai
t'en as d'autres.
Déjà bien arrêté. Il va avoir du mal à se faufiler. Peut-être dans le top 5, on verra quand j'aurai pris du recul un peu.
D'accord. Je crois que ça situe du coup la Switch, parce qu'il faut en parler aussi, ça situe la Switch pour moi en tant que console, un niveau de console que je peux recommander vraiment sans aucune réserve. Aujourd'hui, on se souvient qu'en début d'année, j'étais justement plein de réserves sur la Switch. Je crois que le chemin qu'a parcouru Nintendo, et peut-être qu'on peut le mentionner rapidement ici, ils estiment qu'ils vont pouvoir en vendre 14 millions d'ici la fin de l'année fiscale, ce qui veut dire qu'ils en, au lieu de 10, alors qu'ils avaient déjà revu leur prévision à la hausse à 10 millions, maintenant ils vont à 14, ce qui veut dire qu'ils en auront vendu en un an autant que des Wii U, sur toute sa vie qui a duré 5 ans, ce qui est bon, significatif, mais plus que ça encore, l'important c'est que pour moi la Switch, à moins que vous détestiez, vous soyez pas du tout client des jeux Nintendo, pour moi c'est un achat que je peux recommander direct. Et il y a des gens qui me demandaient est-ce que ça vaut le coup de l'acheter maintenant ou d'attendre. Elle est tellement demandée que son prix va pas baisser. Donc si vous en voulez une dans les 6 prochains mois, achetez-la maintenant, ça changera rien.
Et je pense qu'on risque d'entendre parler de rupture vers Noël. Si le succès se profile comme il se profile. Donc si vous en voulez une et que vous êtes sûr d'en vouloir une, on va dire dans les 6 mois, il y a aucune chance ou raison que le prix baisse, sachant qu'il y a déjà des offres, on va dire, dans les supermarchés aujourd'hui, on la trouve quasiment à 280 euros, quelque chose comme ça. Pour moi, il n'y a pas spécialement de raison d'attendre si on sait qu'on la veut, quoi.
C'est ça. Exactement. Et bon, donc enfin pour moi la Switch est passée de pas sûr à je l'adore, et c'est genre pas tout à fait ma console préférée à cause des jeux, mais enfin des différents jeux, mais surpris par la qualité graphique qui reste basique mais qu'ils exploitent hyper bien, et puis le concept de console double portable. Moi je m'en sers en portable les trois quarts du temps et ça marche tellement bien, et là j'ai 15 heures d'avion aller, 17 heures d'avion retour des États-Unis pour la BlizzCon à laquelle je pars demain à 7 heures du mat. Je peux dire que ma Switch je l'ai avec ma batterie supplémentaire et je remercie le ciel que Nintendo ait créé la Switch, quoi. Bon, on va passer très rapidement sur le fait que il y a des indices qui pourraient indiquer que peut-être la console virtuelle arrivera à un moment sur la Switch, c'est pas sûr du tout. Et puis le fait qu'il y a Animal Crossing Pocket Camp qui arrive sur mobile le mois prochain. Un truc à dire sur Animal Crossing sur mobile, encore un jeu Nintendo mobile avec enfin un free to play.
Alors moi je m'y suis pas du tout intéressé. Déjà jeu mobile c'est pas mon truc et Animal Crossing moins un, donc non j'ai même pas regardé. Bon. Qu'est-ce que ça faisait?
Bah, si vous êtes fan d'Animal Crossing, vous pourrez y jouer sur mobile d'ici quelques semaines à peine. Passons du coup. Ah, j'aimerais continuer à parler de Mario, mais ça fait déjà une demi-heure qu'on en parle, donc on va. Mais franchement, j'aimerais continuer à en parler et en parler en spoilant. Mais on va éviter. Donc on va éviter. Ouais. Il y aura l'occasion hein, pour la fin de l'année, je suis sûr quand on regardera les jeux de l'année, je suis sûr qu'on pourra en reparler. Parlons donc maintenant rapidement de Assassin's Creed Origins, que moi j'ai pas touché et que toi tu as touché, mais un tout petit peu. Bon, t'es pas super méga fan de la série Assassin's Creed, mais puisque t'as récupéré celui-là, des petites impressions rapides en quelques minutes.
Ouais, je vais juste aussi un peu donner le contexte de moi et Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est le premier jeu, c'est le jeu qui m'a fait acheter une Xbox 360, qui était ma première console HD et tout ça. Donc, on va dire que sur le concept, je suis assez client de ce type de proposition. Puis j'ai plus ou moins essayé à peu près tous les Assassin's Creed, à quelques exceptions, et à chaque fois je suis stoppé très rapidement. Le seul que j'ai fini, c'est Black Flag, que j'avais beaucoup aimé. Mmh. Et ça tombe bien parce que il me semble que c'est la même équipe qui a fait Origins. Donc la première chose à dire, c'est que c'est clairement pas le reboot ou on va dire le renouvellement complet de la saga comme certains auraient aimé ou l'ont vendu à un moment de la communication.
Rappelons que effectivement, ils ont pris une année de pause. Il n'y avait pas d'Assassin's Creed l'année dernière, alors que les années précédentes, depuis le premier, il y en avait un comme un métronome tous les ans. Donc, on pouvait être en droit d'espérer que le jeu revienne avec des changements substantiels.
Voilà. Donc cette fois-ci, on est dans l'Égypte. L'open world est vraiment gigantesque. J'ai juste regardé la map, je pouvais plus de dézoomer tellement c'était immense. J'ai joué 4-5 heures, donc c'est quand même assez peu. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que la modification qu'ils ont fait sur les combats, donc en fait, pour résumer, les combats avant dans Assassin's Creed, c'était un peu des combats.
Excuse-moi, il faut que je note que tu dis Assassin's Creed.
Ouais. Assassin's Creed.
Bah, non, mais Assassin's Creed, tu fais comme tu veux.
oui, donc du coup, les combats tels qu'ils étaient avant, c'était assez magnétique, c'est-à-dire qu'il y avait des ennemis qui se plaçaient autour de nous et qui attaquaient un peu les uns après les autres, un peu à la manière d'un Arkham où il fallait donc appuyer sur des touches pour contrer ou pour attaquer, etc. Et c'est un système de combat qui me déplaît énormément. Je déteste vraiment ce type de gameplay-là.
Hérétique. Moi, ouais, c'est mon Arkham, c'est ma cam.
Même dans Arkham, j'aime pas.
D'accord.
Et du coup, voilà, le changement qu'ils ont fait. Donc maintenant, c'est un style de combat, on va dire plus classique. On va dire, je vais dire à la Dark Souls, mais juste pour qu'on voit le type de coup. C'est-à-dire qu'on donne les coups, ils sont donnés tout de suite. Si on a loupé l'adversaire, on l'a loupé. Alors qu'avant, c'était un peu magnétique. C'est-à-dire que quand on donnait le coup, le personnage faisait le chemin pour aller frapper.
Et du coup, si tu mets un grand coup d'épée sur un groupe d'ennemis, c'est genre l'épée qui traverse les modèles 3D des ennemis et les 3 ou 4 ennemis vont être touchés par l'épée, ils vont prendre les dégâts du truc, d'accord.
Exactement, c'est ça. Et du coup, donc on a le bouclier, on peut faire des parades, on peut esquiver, donc on a une espèce de petite roulade du coup, effectivement un peu comme dans Dark Souls. Enfin moi on retrouve un peu les mouvements, on va dire, que ce que tu peux constater de Dark Souls. C'est pour ça que j'utilise Dark Souls, c'est pas pour la difficulté ou quoi. Je précise quand même. Et du coup, voilà, ça donne des combats beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus variés parce qu'on peut avoir plusieurs types d'armes. Donc, on peut avoir des armes à deux mains, deux armes dans chaque main, etc. Et ça donne des façons de bouger, des façons de se battre assez différents. Et là, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir juste à me battre. Alors qu'avant, c'était dramatique, mais moi, j'aimais bien grimper, être un peu en mode furtif. Et dès que je me faisais repérer, le jeu devenait vraiment une plaie puisque j'aimais pas le style de combat. Et donc là, c'est tout l'inverse. Je vais même des fois provoquer des combats juste pour m'amuser un petit peu de ce côté-là. Et moi, ça change complètement ma perspective du jeu. Et d'un jeu que j'appréhendais beaucoup et une saga où je testais chaque épisode en me disant, en sachant que j'allais arrêter très rapidement. Là, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de m'engouffrer dans le jeu. Alors malheureusement, il arrive un peu en même temps que Mario, et Mario a quand même pris un peu le dessus. Voilà, je vais
maintenant. Mais t'es séduit, quoi.
Ouais, je suis complètement séduit. Niveau scénario, je m'attends à rien du tout, donc peut-être que je serai surpris.
Tu t'attends à rien, donc tu seras agréablement surpris,
ouais,
c'est ça.
Pas forcément fan des scénarios, on va dire, d'Ubisoft en général. Même si je suis de loin toute la méta-histoire de Assassin's Creed, c'est-à-dire le côté présent. Alors moi, je suis le mec bizarre qui aime bien le côté, ce qui se passe dans le présent.
Aspergo.
Voilà, donc toute cette intrigue-là m'intéresse. Donc, j'ai passé 45 minutes dans un ordinateur, dans le jeu, à lire des mails.
D'accord.
C'est pas commun. Mais du coup, voilà, je suis.
Donc, il y a aussi cet élément de.
Oui, bien sûr. Ouais. Qui ramène à chaque fois dans chaque épisode. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, on joue quelqu'un dans le présent qui, via une machine, revit des souvenirs issus d'un ADN. Et du coup, donc là, c'est une scientifique qui revit, on va dire, la vie de Bayek, donc l'assassin de cet épisode-là. Et du coup, il y a des séquences où elle sort de l'animus, où tu peux, voilà, où tu peux un peu recontextualiser ce qui se passe dans le présent et comment a évolué, on va dire, le conflit entre assassins et templiers dans le présent.
Et du coup, le contexte historique, on sait que beaucoup de gens attendent beaucoup, justement, de la partie Égypte ancienne et tout ce qui est ambiance, histoire, etc. Est-ce que déjà en quelques heures tu as eu une impression, enfin tu peux donner une impression sur la manière dont c'est rendu dans les rues, parce que ne serait-ce que par exemple le fait qu'il y ait pas de hauteur, ou j'ai l'impression, tu vois, dans des petits villages égyptiens, à moins que tu montes sur les pyramides ou sur le sphinx, tu vas pas avoir énormément de hauteur, ou j'avais pas l'impression qu'on avait beaucoup de foule dans le jeu ou dans les démos qu'on a vues. Donc se perdre dans la foule, comme c'était un petit peu le gimmick des jeux précédents, c'est pas forcément possible. Ça donne quoi, ça, tout ça?
Alors, je suis pas allé hyper loin, et je sais pas s'il y a des villes, on va dire, plus grouillantes plus loin, mais effectivement c'est très défriché. Il me semble qu'Ubisoft triche un petit peu historiquement sur des tailles de bâtiments qu'ils ont exagéré pour pouvoir donner un peu cette hauteur-là. D'un point de vue historique, enfin, il y a quelque chose que je trouve top. Alors, je sais pas comment c'était rendu dans les anciens, mais donc les personnages parlent anglais, évidemment, enfin en tout cas en version originale, et certains mots sont gardés, sont gardés de l'époque. Je pense que c'est des titres ou des voilà. Donc du coup, t'as vraiment une sensation d'être plongé dans cette époque-là. Tu rencontres des personnages issus, on va dire, de certains cultes religieux, donc tu comprends un petit peu comment. D'un point de vue historique, c'est quand même assez intéressant. Alors, j'ai pas forcément le recul ou les connaissances pour savoir qu'est-ce qui est accurate, enfin, qu'est-ce qui est comme ça l'était à l'époque ou pas.
Visiblement, la justesse historique, la réalité historique, enfin dans le cadre du jeu quand même, a été poussée jusqu'à avoir au moins certains hiéroglyphes qui étaient exacts, dont le sens correspondait à ce que c'était censé être. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont renseignés quand même. Surtout qu'il y a ce mode exploration qui est censé arriver, peut-être qu'ils ont quand même poussé le truc, quoi.
J'aimerais rajouter quelque chose sur l'exploration. J'ai un petit peu zappé ça. Les jeux à monde ouvert Ubisoft sont souvent un peu décriés pour le nombre d'indicateurs qu'ils mettent à l'écran, avec tout qui brille, la carte qui t'indique où tu dois aller, et au final tu passais plus de temps à suivre ton GPS, à suivre les points lumineux plutôt qu'à vraiment explorer l'open world. Et ça, on l'a encore plus vu avec le dernier Zelda, qui lui pour le coup était un peu plus avare en indicateurs, et on s'est rendu compte qu'effectivement un open world avait plus à gagner à te donner des indicateurs visuels réels dans le monde plutôt que d'afficher des pointeurs par-dessus la beauté, on va dire, du paysage.
Et oui, du pour coup, ceux qui n'y ont pas joué, le Zelda, effectivement, c'était basé beaucoup sur c'est en haut de cette montagne que je vois un truc, et donc dans la géographie du monde dans lequel tu te baladais, tu allais effectivement suivre la montagne, essayer d'atteindre la montagne en la regardant, et pas en ayant le GPS comme dans la plupart des open world classiques, quoi.
Voilà. Donc là, du coup, quand tu lances le jeu normalement, c'est comme d'habitude, t'as plein de marqueurs partout. Par contre, dans les options, t'as 4 niveaux de HUD où tu peux dire, je veux tout, je veux un peu moins, je veux très léger ou rien du tout. Et du coup, en rien du tout, c'est là que tu profites, on va dire, d'exploration totale. les quêtes, tu dois aller les lire pour savoir où tu dois aller. Et du coup, enfin, ça te donne une approche différente du monde que tu vas explorer. Et du coup, je pense que, bon, moi, c'est comme ça que je vais jouer là. Dès que j'ai découvert l'option, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, ça te permet vraiment de
t'immerger dans le truc,
t'immerger dans cette époque-là. Et peut-être que j'en ressortirai, on va dire, dans ma connaissance culture générale, plus de lieux, plus de choses comme ça. Ouais.
D'accord. Ok, bah écoute, intéressant. En tout cas, premières impressions assez positives, j'ai l'impression, sur Assassin's Creed. Ouais. Quoi.
Et puis d'ailleurs, les critiques sont plutôt élogieuses aussi. Hein. Enfin, là, c'est aussi ça a l'air d'être une bonne pioche par rapport aux autres épisodes qui étaient un peu plus, on va dire, il n'y a jamais eu des vraiment notes catastrophiques, mais c'était en général un peu, ouais, c'est comme d'hab. Et là, on sent que les efforts qui ont été faits payent, on va dire, d'un point de vue critique.
Ouais. Effectivement, les scores sont plutôt bons et c'est pas que les scores étaient mauvais avant, mais j'ai l'impression que au-delà des scores, les gens ont l'air de dire c'est un bon épisode qui corrige pas, qui change pas fondamentalement le jeu, contrairement à, comme tu le disais, ce qu'on aurait peut-être pu attendre, mais qui corrige certains défauts qui rendent les choses plus agréables à utiliser, quoi. Donc comme tu dis, bonne pioche. Bon, on n'a pas du tout testé Wolfenstein 2, donc peut-être dans les mois à venir, parce que les reviews sont aussi très bonnes sur Wolfenstein, j'ai l'impression, et c'est un petit peu le 1 en mieux, et comme le 1 était déjà très bon. Et puis le contexte, le cadre de l'invasion, enfin de l'invasion, même pas, de l'occupation nazie des États-Unis est quelque chose qui a été fait déjà parfois, mais qui là a l'air d'être particulièrement bien fait. On a des scènes hyper intéressantes où, par exemple, dans le sud, il y a ils ont donné, en fait, les nazis ont donné le sud au KKK. Et donc, ça donne lieu à des scènes, comme vous pouvez imaginer, enfin au KKK, comme vous pouvez imaginer, assez glaçantes, quoi. Donc, bon, à voir. Moi, c'est un des jeux que je voudrais faire, mais qui est Axiom 2017 relégué à dans quelques mois peut-être. Peut-être que je le prendrai en promo ou ce genre de truc. Mais il a l'air de tenir ses promesses aussi, quoi. Bon, bah je te propose qu'on passe à la conférence Paris Games Week de Sony. Comme on le disait tout à l'heure, elle était un petit peu surprenante. C'est pas qu'il y a eu d'incroyables annonces invraisemblables, mais entre alors ils ont refait ce qu'ils avaient fait, je sais plus si c'était à l'E3 ou avant, mais il y avait une sorte de pré-show. Ouais, c'était à l'E3. Il y avait un pré-show où ils ont annoncé quelques trucs des jeux un petit peu plus petits, mais il y avait quand même des choses. Et puis il y avait la vraie présentation média qui durait, je sais pas, c'était 40 minutes peut-être, c'était assez court.
Oui, c'était très court.
Il y a eu quelques présentations de nouveaux jeux et puis des updates sur d'anciens jeux. Alors, je te propose qu'on fasse d'abord la pré-conférence et puis ensuite la vraie conférence. Et puis, la pré-conférence, il y avait une partie jeu classique et puis une partie PlayStation VR. Sur la partie PlayStation VR, je vais inclure les jeux de la vraie conférence aussi parce que c'est un ensemble, on va dire. Mais déjà, dans la pré-conférence, on a eu des annonces sympas. Guacamelee 2, Spelunky 2, Locoroco 2, j'avoue que je suis un petit peu moins client. Ouré, je sais plus comment ça se prononce. Ouré.
C'est Ouré, ouais.
Ouré, ouais, qui est un jeu, comment dire... on a vraiment cette vibe journée, tous ces jeux indés dont les gens disent « Ah ouais, non mais ça c'est tellement beau, voilà, ça c'est des jeux intéressants, tu vois, c'est un truc qui moi m'intrigue, m'intéresse, tout ça. » Et c'est vrai que c'est super beau. Hong Kong Massacre, qui est un petit peu genre une sorte de Hotline Miami, un mélange entre Hotline Miami et je sais pas quoi, un autre truc.
Max Payne un peu.
Voilà, exactement. Quoi d'autre sur la PlayStation PlayStation VR, Farpoint, enfin ça c'est des jeux qui existaient déjà, Farpoint, Sprint Vector, Bridge Crew de Star Trek, le DLC pour Resident Evil, Evil 7, Star Child qui avait été présenté à l'E3, qui est un jeu de enfin bon, il y en a trop, on va pas pouvoir parler de tout. Une nouveauté Megalith, qui est un jeu où on contrôle une bestiole énorme qui est un hero shooter. Donc voilà, League of War qui reçoit le titre du jeu au nom le plus générique de l'histoire. Stifled, un truc hyper bizarre où il faut faire du bruit, on a du l'écran est noir, il faut faire du bruit et c'est comme une sorte de sonar et donc il faut faire du bruit pour voir où on va, mais en même temps ça attire des sortes de zombies. Quoi d'autre? Ultra Wings qui est un jeu qui sort là bientôt, qui est un jeu avec des avions, des vieux coucous, genre des avions à moteur, et puis il faut exploser des ballons, faire des parcours, on peut jouer à plusieurs, enfin il y en a vraiment une bonne quantité. Il y a évidemment le jeu que tout le monde attendait, Final Fantasy XV Monsters of the Deep, un jeu de pêche en VR dans l'univers de Final Fantasy XV, hein, ça a évidemment gros succès. Blood and Truth qui est un jeu, un FPS genre dans Londres, avec un très marqué, moi j'avais presque l'impression de voir un truc genre un film de Guy Ritchie, qui a l'air assez sympa. Et puis ils ont laissé entendre qu'il y aurait beaucoup d'autres choses qui arriveraient pour le PlayStation VR à la PlayStation Experience en décembre, mais bon, peut-être première partie, donc tous ces jeux qui ont été annoncés, et je suis sûr que j'en oublie d'ailleurs. Et puis ensuite, PlayStation VR, tes impressions à toi? Quelque chose que t'as retenu peut-être?
Oui, alors ça reste des petits jeux entre guillemets, c'est-à-dire que ce ne sera pas des jeux que je vais forcément attendre de pied ferme avec un Day One en tête, etc. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes. Donc il y a le Hooray, bon, qui a l'air de reprendre effectivement du journée avec un peu du Shadow of the Colossus. Pourquoi pas. Côté VR par contre, là j'étais assez surpris de voir autant de jeux. Donc moi j'ai un PSVR.
Donc c'est toi et moi, on est les deux. Non, c'est pas vrai, c'est pas trop mal vendu, je crois qu'ils sont à 1 million quand même. Donc c'est pas complètement ridicule.
Oui, c'est loin d'être ridicule, mais du coup là je avec cette conférence, j'avais peut-être dans l'optique de le revendre par exemple, pourquoi pas. Et là je sais que dans le lot il y a on va dire 3-4 jeux qui vont m'intéresser et que du coup je vais garder mon PSVR pour les attendre et les faire, etc. Donc il y a rien d'incroyable, mais il y a des choses qui vont me faire passer à la caisse pour avoir ma petite expérience VR, mon petit jeu VR. Donc il y a des choses assez chouettes, le Spring Vector qui a l'air très très rapide et très dynamique. Moi ça me fait pas peur, mais je sais que si je mets le casque sur la tête de ma femme, elle va tomber dans les pommes. Tellement c'était assez
ouais. Pour expliquer ce que c'est que Spring Vector, je crois qu'il est sorti sur Oculus ou sur Vive, je sais plus, mais enfin bon,
c'est déjà sorti, d'accord. J'avais jamais vu en fait tourner ce truc-là. C'est vraiment très dynamique.
Ouais. Alors c'est un jeu qui est comment dire entre le parcours, la course, le roller et je sais pas le cyberpunk quoi. C'est ouais. Hyper bizarre et on court et du coup en VR, mais visiblement ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Et comment dire, c'est un truc qui est assez inattendu en ouais, c'est sur Vive, c'est Spring Vector, c'est dispo sur Steam. C'est assez inattendu comme visuel pour un jeu en VR et c'est le genre de truc où tu dis ah ouais, je veux tester quoi, effectivement.
C'est ça.
Il arrive sur PSVR. Il y a Farpoint qui est... Oui, pardon, vas-y.
Oui, j'allais dire il y a les DLC de Resident Evil. Moi j'ai beaucoup aimé le jeu et donc je l'ai fait en VR notamment et du coup pas de soucis sur ce jeu là en tout cas, moi j'ai passé un bon moment même en VR, donc les DLC voilà, je vais prendre le Season Pass pour pouvoir les faire. Il y avait le MOS, le petit jeu de avec la souris qui est dans un dungeon crawler, avec des énigmes à faire on va dire en motion gaming, donc ça c'est t'as toutes les choses qui vont ensemble, VR, motion gaming, etc. Qui a l'air hyper classique si c'était pas en VR, mais le jeu a l'air assez propre, on va dire. Je suis assez curieux de savoir, mais j'ai pas encore fait de jeu, on va dire, de jeu où tu n'es pas en vue à la première personne en VR encore. Donc j'étais assez curieux de voir, de découvrir un jeu, on va dire plateforme où t'as un recul sur le personnage.
Et puis, je crois que t'as... Ouais, vas-y.
Oui, donc, non, vas-y, je te laisse suivre.
Ben pour alors rapidement sur les jeux qui ont été annoncés donc dans cette préconférence, les Guacamelee 2, Spelunky 2. Spelunky je l'ai jamais fait, donc peut-être l'occasion l'occasion de le faire. Et il y a des fans de Spelunky vraiment qui sont complètement je suis sûr qu'ils sont en train de faire des attaques d'apoplexie à l'annonce du 2 parce qu'il a été hyper hyper populaire. Guacamelee a sa fanbase aussi et c'est vraiment un jeu qui est marrant, c'est une sorte de Metroidvania.
Ouais, c'est un super jeu.
Dans l'univers, c'est très stylisé et c'est dans l'univers des luchadors. C'est genre une sorte de Mexique bizarre avec enfin, luchador qui se bat en platformer avec des mécaniques là dans celui-là qui étaient vraiment intéressantes. Il y a des sortes, c'est difficile à décrire, mais ils montraient des phases d'univers parallèles. En fait, c'est des barres qui se déplacent horizontalement ou verticalement qui montre deux aspects du même niveau et du coup quand on est dans une zone de l'écran, eh ben le niveau, enfin la carte, l'écran est à certaines propriétés, genre les ennemis sont
côté rouge, côté bleu, donc
c'est ça. Et donc parfois il y a une plateforme qui existe ou qui existe pas, des ennemis qui sont là ou pas, il y a une mécanique de grappin qui est disponible ou pas avec les accroches, et vraiment c'est l'écran, genre si vous imaginez, il y a trois barres qui font chacune un sixième de l'écran qui se déplace, et il faut rester dans la bonne barre pour faire ce qu'on veut faire à cet endroit. C'est des mécaniques intéressantes, et puis il y a un coop, un mode coop qui a l'air bien foutu aussi. Enfin bref, il y a des trucs intéressants à ce niveau-là, mais effectivement, moi, ce qui m'a le plus, enfin, ce qui m'a marqué, c'est cet aspect PlayStation VR où je me suis dit aussi, en fait, mon PSVR, j'y ai pas pensé depuis un an, depuis qu'il est sorti. Je l'ai essayé sur la fin de l'année, j'ai fait quelques trucs, dont Arkham VR qui était vraiment sympa, mais voilà, c'est à peu près tout, et j'y ai plus trop pensé. Donc même un jeu comme Farpoint qui est sorti depuis un moment maintenant sur PlayStation, qui a plutôt des bonnes reviews. En fait, cette conférence, c'est un peu comme toi, je me suis dit, ah, la VR, il y a encore des trucs, il y a peut-être des trucs intéressants. Donc, quand l'apocalypse de la fin d'année avec tous les jeux incroyables que je veux faire sera passé, je vais peut-être me réintéresser à mon PSVR, alors qu'avant cette conférence, je m'étais pas vraiment fait cette réflexion. Et du coup, ça m'a aussi amené cette réalisation qu'on sait tous, mais du fait que vraiment la VR, on en est à quoi, un an ou deux ans du début de la réalité virtuelle. Et imaginons ce que c'était, essayons de nous souvenir ce que c'était le jeu vidéo. C'est pas tout à fait la même chose, je comprends, mais le jeu vidéo au bout d'un ou deux ans, clairement, c'était pas, on n'était pas arrivé à des niveaux où on est aujourd'hui. Donc, je laisse le temps à la VR et en particulier à la PlayStation VR puisque je l'ai et qu'il y a des trucs qui m'intéressent. Tu les as tous décrits, donc je vais pas y retourner. Mais il y a des trucs qui m'ont intéressé dans tout ce qu'ils ont présenté. Donc là, je m'attendais pas à me dire ah, PlayStation VR, pourquoi pas, je vais le ressortir à un moment. Et de fait, là, je crois que, on va dire début d'année prochaine, je vais peut-être m'y réintéresser, quoi. Donc voilà, je pense qu'on est assez d'accord sur notre analyse sur ce truc, quoi. Passons maintenant à la partie, la vraie partie de la conférence de Sony, c'est-à-dire la conférence de 40 minutes où ils ont présenté leur gros machin. Alors qu'est-ce qu'il y avait ? Grosse surprise, le jeu Ghost of Tsushima, qui est un jeu de Sucker Punch, vous vous souvenez, ce sont les développeurs de Infamous, qui est un jeu qui a ouvert la conférence avec un choc assez important. On joue un samouraï sur l'île de Tsushima au moment de l'invasion mongole. Les Mongols ont essayé d'envahir le Japon. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais le jeu a on n'en sait pas énormément, bien sûr. C'était un premier trailer relativement court, mais narrativement, ça a l'air intéressant. Allez voir le trailer. Moi, j'ai été intrigué et plutôt positivement alpagué. Et ça a l'air d'être entre samouraï et ninja et un jeu de Sucker Punch en monde ouvert. Alors Sucker Punch, clairement ils savent ce qu'ils font. Bon, je vais passer plus rapidement sur les autres. Concrete Genie, un jeu qui là encore a cette qualité des jeux indés où on va faire des graffitis animés, et c'est à mi-chemin entre l'expérience artistique et une réflexion sur le harcèlement, les bullies à l'école sur les jeunes, et c'est magnifique graphiquement. Un jeu Playlink qui s'appelle Erika, qui, vous savez, c'est ces jeux où on contrôle avec le téléphone. Far Cry qui annonce son mode coop, ça ressemblait un petit peu à du GTA 5. Donc Far Cry 5 coop. Destiny, Curse of Osiris, donc l'extension qui arrive bientôt déjà. Monster Hunter World avec Aloy comme personnage exclusif sur Monster Hunter sur la PlayStation 4. Call of Duty World War 2. Onrush, un jeu de course de c'est Deep Silver, je crois. Une petite vidéo sur Battlefield 2. Spider-Man, un petit passage narratif plus que gameplay dont on pourra parler. Detroit Become Human, encore un trailer avec encore des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait vu avant, mais qui pour moi a fonctionné. Une toute petite séance de gameplay de God of War qui était vraiment très courte, mais bon, on ne dit jamais non à du God of War, enfin ce nouvel opus en tout cas. Un tout petit peu de Horizon Frozen Wild, donc l'extension de Horizon Zero Dawn. Encore des images du remake de Shadow of the Colossus qui a l'air vraiment très très beau. Et puis en conclusion, une séquence, non pas de gameplay, mais une séquence de The Last of Us Part 2 qui là encore a fait son petit effet, on va en reparler certainement. Johan, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces annonces et de toutes ces nouvelles vidéos sur des jeux qu'on connaissait ?
Alors bon, déjà le jeu de Sucker Punch, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire assez intrigué. Puis quand j'ai vu le logo de Sucker Punch, je me suis dit maintenant je sais que ça va être intrigant, je sais aussi que ça va être fun à jouer. J'avais beaucoup aimé le Second Son au début de PS4, qui est pas non plus extraordinaire, mais qui est manette en main est vraiment sympa. Et du coup, maintenant j'attends beaucoup ce jeu. On verra ce que ça donne. J'espère voir du gameplay assez rapidement.
Moi, je crois que j'avais mis First Light, qui était l'extension individuelle indépendante de Infamous, en jeu de l'année carrément. C'est pas très long, c'est vraiment une extension, mais j'avais tellement aimé. Et du coup, forcément, Sucker Punch, je les regarde avec un intérêt certain, quoi. Et ce jeu-là, c'est difficile à décrire, mais allez voir le trailer. Franchement, le Japon médiéval, le Mongol, en plus avec le Marco Polo, je sais pas si vous avez regardé cette série Marco Polo, moi j'ai beaucoup aimé série Netflix, justement sur Kublai Khan et ses difficultés à maintenir l'empire construit par son grand-père dans la Chine de l'époque. Et du coup, les Mongols qui envahissent, enfin, on dit qu'ils envahissent le Japon, ils sont pas allés très loin, mais mais bon, il n'empêche, cet univers, c'est vraiment pour moi. Et puis, ce qu'ils disaient ensuite les développeurs, c'était le fantasme du samouraï, tout de suite, ça te parle. Et voir des Américains qui vont faire un truc sur le Japon, ça risque d'être... C'est un petit peu casse-gueule, je pense, mais ça va être intéressant.
C'est possible.
Disons que je suis toujours intrigué de voir ce que font d'autres que les Japonais dans le jeu vidéo dans le Japon, parce que souvent les Japonais, ils ont leur style et ils font les choses d'une certaine manière, et j'aimerais bien avoir accès à cet environnement japonais et Japon féodal en particulier, avec des jeux qui seraient, comment dire, un petit peu plus fun, un petit peu plus arcade, un petit peu plus accessible, on va dire. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Mais autre chose.
Alors j'ai été soufflé par Concrete Genie. Donc le jeu de graffiti. Donc au début du trailer, on voit clairement que tu fais des espèces de dessins, que tu choisis un peu ce que tu vas faire. Donc en fait, t'as des icônes et tu choisis la forme que tu veux faire. Puis après, je pense qu'il y a un mouvement pour l'appliquer sur un mur, etc. Et très vite, on comprend que ça sert à résoudre des énigmes. Donc on va pouvoir dessiner un dragon qui crache du feu, qui va permettre de brûler un objet pour pouvoir passer, etc. Et c'est vraiment très 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 joli. Alors là, par contre, pour le coup, je pense que c'est peut-être un peu le trailer que je retiens le plus de cette conférence. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très joli.
Ouais. C'est assez frappant. Moi, je dirais que c'est peut-être au niveau de Ori sur Xbox, quand ils l'ont présenté, de Ori and the Blind Forest à l'époque. C'est un truc que tu vois et tu dis waouh. D'accord.
Ouais, c'est un peu ça.
Là, c'est fou. C'est un truc où tu te rends compte que le jeu vidéo peut faire des choses visuellement qu'on n'imaginait pas avant. Donc, ouais, je suis d'accord que c'est un truc. Ensuite, je t'avoue que je suis un petit peu sceptique sur le gameplay, sur le jeu en lui-même, tu vois, sur le gameplay, sur les... mais bon, faudra voir.
Disons que si même si le gameplay est simple et que si le propos tenu sur le bullying, etc. est intéressant, moi ça me va. Si on est vraiment à la croisée des chemins entre un, je sais pas, un gnome, on va dire, pour le côté narratif, et des énigmes un petit peu basiques, avec juste des très jolies images à regarder, moi ça me fera très bien des soirées canapé sans me prendre la tête, voilà. Donc non, moi c'est là clairement c'est un jeu que j'attends. Alors j'ai aussi des interrogations pour savoir si vraiment le propos est là, si les énigmes sont pas un peu trop bateau, etc. Je pense qu'on aura des professionnels qui seront là pour nous le dire. Spider-Man, j'ai très content de voir qu'on pourra diriger Peter Parker, donc sans son costume, avec des phases. Je sais plus, il est au lycée ou non,
je crois qu'il est un petit peu plus âgé. Je crois qu'il est un petit peu plus âgé.
Hein.
Ouais.
En tout cas, ça a l'air, c'est une nouvelle facette du jeu qu'on ne connaissait pas. Et du coup, moi qui est un tout petit peu refroidi. Parce qu'on avait vu à l'E3, là je regagne un petit peu en confiance.
Mais du coup, c'est un système de jeu pour le gameplay, pour les combats, c'est du Arkham, hein, donc ça va pas être pour toi.
Mais bon, c'est pas grave, je serai Spider-Man.
Très bien, très bien. Mais effectivement, c'était un trailer qui était pas très très long, mais qui était entièrement narratif et qui posait les enjeux dramatiques du jeu, ce qui est forcément un truc qui pour moi est important. J'aime beaucoup les aspects narratifs dans les jeux. Et j'ai l'impression que dans le trailer, je l'ai vu qu'une fois rapidement, donc je sais pas, mais j'ai l'impression il présente Miles Morales, qui est donc le deuxième Spider-Man dans les comics Marvel. J'ai l'impression qu'à un moment Miles met le costume. Je sais pas si t'as vu ça ou si c'est moi qui ai mal vu, mais à un moment on voit vers la fin du trailer quelqu'un qui met le masque, et j'avais l'impression que c'était un noir qui mettait le costume. Mais je suis pas 100% sûr.
Je vais aller regarder le trailer.
D'accord.
Pour voir, pour vérifier. Le trailer, comme tu disais, de Detroit était excellent. Je pense que c'était le meilleur trailer qu'ils aient montré sur le jeu jusqu'ici. Alors moi...
c'était carrément...
Je suis fan de cette façon de présenter les choses avec comme une sensation qu'on remonte le temps. Je pense pas que ça sera le cas, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé de pouvoir à la volée faire un choix, voir la conséquence, revenir en arrière, essayer différentes choses jusqu'à résoudre la situation comme on le voudrait. Alors je sais que c'est pas le genre, on va dire, des jeux de cage où on a des choix et on voit les impacts plus tard, et où peu importe le choix qu'on fait, l'histoire continue jusqu'à une conclusion. Mais en tout cas, ces trailers, même les anciens, hein, me faisaient déjà pas mal cet effet où j'ai envie de jouer à ce truc avec tellement d'embranchements.
Tu veux Life is Strange, en fait, comme
En fait, je veux Life is Strange avec un budget AAA, c'est ça.
Ouais, c'est ça. juste un petit mot pour conclure sur Spider-Man. Moi aussi, j'ai été complètement conquis par ce truc. J'ai vraiment hâte qu'il arrive. C'est pour moi l'un des jeux que j'attends le plus l'année prochaine. Sur Become Human, j'étais pas du tout convaincu par les trailers précédents, et je pense qu'il va y avoir plein de petites historiettes. J'ai l'impression, parce que à chaque fois, on a eu genre 3 trailers, et à chaque fois, c'est des trucs complètement différents, des personnages différents, aucun rapport. Et donc, je pense que ça va être plein de petites historiettes. Mais celle-là, quand je disais c'est lourd, c'est genre émotionnellement lourd. C'est l'histoire, visiblement, ce qu'on voit dans le trailer, je vais pas spoiler quoi que ce soit, c'est ce qu'on y voit, mais on est donc un androïde qui revient dans une maison où il y a un père clairement violent et une petite fille. Et donc le père qui abuse de sa fille, pas sexuellement, enfin on sait pas, mais en tout cas physiquement, violemment. Et donc cet androïde qui comprend peu à peu ce qui se passe dans la maison, et du coup les choix que l'androïde doit faire ou ne pas faire, et donc le personnage. Et émotionnellement, c'est un poids et une charge qui sont établis en 3 minutes de trailer, comme j'en ai rarement vu, quoi. Et du coup, c'est difficile de voir ça et de ne pas être intrigué par le jeu. Même si moi, le seul bémol que je mettrais, c'est que si c'est plusieurs petites histoires relativement courtes, toutes ne seront peut-être pas du même niveau que les meilleures. Donc, c'est le petit bémol, mais voilà.
Après, ça peut, ils peuvent reprendre un peu le principe de Heavy Rain où t'avais aussi plein de personnages et où tu faisais un peu, tu parcourais les personnages avec chacun leur intrigue qui se finissait par se recouper à la fin ou quelque chose comme ça pour donner
possible.
Un peu plus de volume peut-être aux histoires qui seraient moins impactantes.
Autre chose?
Non, bah on peut parler rapidement de The Last of Us.
Du coup je vais les faire. Ouais. God of War, bon, il y a rien de nouveau, mais peut-être la relation entre les deux, le gamin était un petit peu plus gamin entre guillemets moderne. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Comme vous en souvenez depuis les premières présentations, la dynamique entre Kratos et son fils est hyper importante et le fils, enfin Kratos apprend à être papa. Et forcément, quand on connaît l'histoire de Kratos,
c'est...
Ah bah oui, forcément. mais c'est déjà, si tu veux, à la base, le genre de truc qui me parle. Alors là, maintenant, bien sûr, encore plus. Mais Kratos, si tu veux, c'est Kratos. Et il a une façon de voir le monde bien particulière. Et forcément, quand tu lui mets un gamin dans les pattes, ça donne quelque chose d'intéressant, on va dire. Mais là, autant dans les trailers précédents, le gamin avait l'air... un petit peu apeuré, un petit peu réservé par rapport à ce qui se passait autour de lui. Autant là, j'avais l'impression de voir un adolescent aujourd'hui presque. Enfin, d'entendre en tout cas ce qu'il disait. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Faudra voir plus loin, mais peut-être que ça deviendrait, si c'est systématiquement morose et comment dire, morose et tendue entre les deux, peut-être qu'au bout d'un moment ça devient lourd sur 15 heures de jeu, donc bon, peut-être que c'est nécessaire, mais voilà, au-delà de ça, le trailer était, enfin les images c'était assez court, c'était peut-être une minute et on n'apprend pas grand chose de plus, mais il n'empêche c'est God of War, donc voilà.
Moi j'attends le jeu depuis la première présentation, maintenant tout ce qu'on me montre en plus, on va dire que ça m'intéresse pas plus, je sais que je veux y jouer.
Ouais.
Ok, on montre de nouveaux ennemis, etc. Ouais, je suis pas spécialement attiré par ces nouveaux trailers. Je trouve pas que ça nous ajoute quelque chose en fait vis-à-vis de la première présentation. Maintenant, on veut le jeu.
Ouais, on est d'accord. The Last of Us, donc un trailer là encore où on n'était pas du tout sûr si ça allait être The Last of Us ou merde, comment il s'appelle l'autre.
Days Gone,
voilà. Pendant toute la première partie du trailer, on savait pas. Et alors, je vais pas spoiler, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est... J'ai du mal à trouver les mots pour décrire l'effet que me fait ce jeu. Et du coup, avec le poids du premier, l'effet que me font les images du deuxième. Le premier était impactant parce que c'était les personnages... Le premier trailer, je veux dire, était impactant parce que c'était les personnages du premier jeu. Là, c'est des personnages complètement différents, mais ils ont une maîtrise Naughty Dog de leur de la narration et de la réalisation. C'est, il y a rien de gameplay, il y a aucun moment de gameplay, donc. C'est en tant que jeu vidéo entre guillemets, on peut très certainement faire le reproche à ce trailer que il nous montre rien du tout de la partie jeu, mais évidemment dans les jeux Naughty Dog la partie narration est hyper importante et mais c'est à la fois choquant, violent, difficile à regarder et on en une scène il nous tisse une relation avec les personnages, on a l'impression qu'ils vivent, on a l'impression que c'est c'est juste, on est en train de regarder un truc qui se passe dans ce monde-là, dans ce monde de The Last of Us, et les enjeux sont posés immédiatement et on est dedans avec eux en quoi 3 minutes de trailer. Moi, j'ai été estomaqué, enfin comment dire, c'est limite, je m'y attends parce que c'est The Last of Us et Naughty Dog, mais j'ai été pour des nouveaux personnages dont on ne sait rien, ils réussissent à le mettre en place d'une manière vraiment impressionnante, j'ai trouvé. Et peut-être que c'est moi parce que je suis client du jeu et du studio et de leur style de jeu, mais moi je suis complètement, je cours quoi. J'étais en train de jeter mon argent sur l'écran quoi. Voilà, prenez-le, combien vous voulez plus, ok, je vous en donne plus quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi?
Un peu comme toi. Alors moi, je continue à penser hein, que The Last of Us n'a pas besoin d'une suite. Mais mon côté fan, on va dire, prend le dessus. Et oui, j'ai envie de retourner dans ce monde-là. Et donc, à chaque fois que je vois un trailer, le trailer qu'on avait, je sais plus c'était à quelle occasion qu'on avait eu le premier, parce que
PlayStation Experience ouais. L'année dernière, oui.
Donc là, effectivement, il y avait les notes de musique hyper reconnaissables. Et là, cette fois-ci...
Ça me donne la chair de poule, rien que d'y penser.
Là, cette fois-ci, ils avaient pris une autre approche en cachant, on va dire, tout élément qui pourrait laisser deviner on va dire le jeu que c'était, hormis le moteur. Moi, j'avais l'impression de voir un peu du Uncharted, mais je sais pas, enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et voilà, donc oui, comme tu disais, la maîtrise de la cinématique est assez dingue. Pour autant, je garde toutes mes réserves, je me protège.
Ouais,
je garde toutes mes réserves, je continue à penser que le jeu n'avait pas besoin de suite. Je suis je vais être très très chiant sur le scénario, etc., sur la narration. Ils ont intérêt à faire quelque chose, on va dire, qui justifie d'avoir retouché à cet univers qui est pour moi un des moments forts de ma vie de gamer. J'en ai des frissons là en parlant. Donc j'ai hâte. Je sais que c'est pas pour tout de suite. J'espère qu'on aura quand même d'autres des séquences un peu plus jouables, on va dire, visibles l'année prochaine. En attendant. On l'attend.
Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Le premier n'avait clairement pas besoin d'une suite, mais ça veut pas dire qu'on sera pas content de l'avoir. Enfin, j'espère comme toi qu'ils réussiront à la justifier. Ce que je me dis, c'est que si elle est pas aussi bonne, oui, ça ternit un tout petit peu, le premier par rebond, par réflexion, par tout ce qu'on veut. Je suis d'accord. Mais en même temps, je trouverais ça tellement dommage de ne pas profiter de cet univers qui a été établi sur un jeu et de ne pas le retrouver. Je comprends tout à fait, j'entends les gens qui disent il faudrait pas y retoucher parce que le premier est très bien là où il est et par certains aspects, c'est une expérience unique dans le jeu vidéo. Mais je pense qu'on a, si on y gagne... On y gagne énormément, tu vois, ne serait-ce que le plaisir de le retrouver. Et puis si on y perd, le premier reste un excellent jeu, tu vois. Au pire, on a un 2 qui est un petit peu en deçà, ou qui est très en deçà, je sais pas. Mais donc, moi, je suis prêt à prendre le risque, tu vois, tellement la récompense pourrait être bonne. Donc, non, je t'entendais dire...
T'es
d'accord?
je suis complètement d'accord.
Ouais. Donc voilà pour cette conférence Sony Paris Games Week qui était vraiment surprenante. Moi, je suis vraiment curieux du coup encore plus de voir ce qui va se passer à la PlayStation Experience en décembre, parce que s'ils ont sorti des trucs comme The Last of Us, un trailer The Last of Us à la Paris Games Week, je sais pas ce qu'ils vont avoir peut-être plus d'images de Ghost of Tsushima et peut-être même un petit peu plus de The Last of Us et certainement du Days Gone. Ils ont de quoi alimenter très certainement, mais ils y vont fort quoi. Donc on attendra le PlayStation Experience avec beaucoup d'impatience. Passons rapidement sur le reste des petites news, puisqu'on fait un épisode bonus, on va pas oublier les news. Microsoft a arrêté la fabrication du Kinect. Bon, on savait qu'il était un petit peu mort depuis un bon moment, mais cette fois c'est complètement confirmé, et j'évoquerai l'analyse très juste, je crois que c'était notre ami Kassim qui l'avait dit. Bon, Microsoft abandonne le Kinect, mais ils peuvent quand même être heureux parce que la technologie du Kinect continue à vivre d'une part dans les Alexa et les assistants connectés intelligents et d'autre part dans le capteur de visage de l'iPhone 10 qui sort bientôt. Donc quelque part, Kinect est pas vraiment mort. Ils étaient juste les précurseurs de ce qui allait se passer après. Et puis, il y a l'arrivée de la rétrocompatibilité pour les jeux Xbox 360. Enfin, il y a quelques jeux, une dizaine de jeux Xbox 360 qui sont compatibles Xbox One. Là, c'est arrivé il y a pas longtemps. Et bien sûr, la sortie de la Xbox One X. C'est déjà sorti, hein, la Xbox One X. Je dis pas de bêtises. C'était le 27, si je ne m'abuse.
J'ai un doute.
Tout à coup, je me mets le doute à moi-même.
Moi, j'ai vu tous les journalistes qui recevaient leur
c'est ça,
leur version, mais je crois pas que ça soit. Enfin, je pense pas que ça soit déjà sorti.
T'as raison. Oui, c'était les journalistes qui ont reçu leur version. Donc oui, effectivement, elle arrive. C'est le 7 novembre, pardon. Donc on est encore dans les périodes où les journalistes ont eu leur version de test. Quoi d'autre? Breakaway, le jeu d'Amazon qui était prévu entièrement pour le... Allô?
Oui.
Oui, pardon. Qui était prévu avec d'énormes checklists pour l'e-sport, et ben ils vont prendre un moment pour repenser le jeu. C'est intéressant parce que Amazon Game Studio a annoncé des trucs et ils ont engagé énormément de monde qui finalement sont partis. On avait Kim Swift notamment, la créatrice de ces portals. Je dis pas non, mais non. Qu'est-ce que je dis? Elle était chez Ubi. Enfin bref, Amazon semble pas être hyper, pas connaître énormément de succès dans leur développement jusqu'à maintenant, en tout cas. Est-ce que t'as vu cette histoire de service d'abonnement aux jeux d'occasion de chez GameStop?
Pas du tout.
Alors, j'explique de quoi il s'agit.
Vas-y.
GameStop serait en train de sortir aux États-Unis un service d'abonnement à 60€ par an où on peut louer, entre guillemets, les jeux d'occasion qui sont un jeu à la fois de chez GameStop. On les récupère chez nous. On peut les garder autant qu'on veut et on peut échanger aussi autant qu'on veut et on peut garder le dernier qu'on a récupéré. Donc, 60 $ aux États-Unis. Je pense que ça va poser des problèmes, c'est 60$ pour 6 mois, pardon. Ça va poser des problèmes énormes aux éditeurs parce que du coup, c'est GameStop qui fait de la location avec des jeux, qui sont entre guillemets pas autorisés à la location et les éditeurs vont pas être contents du tout. Et bon, ça va poser
si j'ai bien compris, tu payes 60$ pour 6 mois et t'as toujours un jeu chez toi d'occasion que tu peux ramener pour un autre, comme tu
c'est
veux,
ça.
C'est ça?
Ouais.
D'accord, ok.
C'est ça. Et tu gardes le dernier que t'as pris. Donc, le dernier, tu t'as même juste pas besoin de le ramener, tu le gardes. Alors, évidemment, il faut que les jeux d'occasion, il faut qu'il y ait le jeu que tu veux, le jeu d'occasion que tu veux. J'imagine que ça sera disponible dans tous les GameStop. Et c'est important parce que GameStop, a racheté Micromania il y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que ça va peut-être arriver chez Micromania. C'est pas bête, commercialement. Je sais pas si ça va passer avec les éditeurs. Mais bon, a priori, ils ont pas vraiment leur mot à dire. Encore que les vidéocassettes, vous vous souvenez à l'époque, c'était des cassettes et des DVD, bien sûr, spécifiques pour la location, hein. C'est-à-dire que les magasins de location, à l'époque où ça existait encore, et je sais qu'il y a des endroits qui le font encore, paye une licence au studio spécifique qui est plus cher qu'un jeu normal, enfin pardon, qu'un film normal, qu'un DVD normal, pour l'utiliser pour la location. Donc, à mon avis, ça va aller devant les tribunaux où il va y avoir des discussions entre les éditeurs et les développeurs et les publishers et GameStop. Mais l'idée, pourquoi pas?
Et c'est intéressant parce que du coup, si assez de monde souscrit à ce genre d'offres, ça va rarifier, on va dire, les jeux récents qui arrivent en occasion, déjà qui sont pas forcément communs, mais du coup, les gens qui sont abonnés vont probablement se jeter dessus ou ce genre de choses-là.
Ouais.
Et donc, c'est très intéressant pour GameStop de créer, une rarification de certains jeux, vu qu'ils font du business sur l'occasion, de pouvoir garder la vente de ces jeux d'occasion. T'as des prix un peu plus élevés pour ceux qui l'achètent directement. Mais comme tu dis, c'est assez étonnant parce que clairement là, c'est une astuce pour éviter d'appeler ça de la location. On verra ce que ça donne. Et puisque tu parles d'abonnement, on n'en a pas parlé, mais le PlayStation Now est maintenant disponible en France depuis aujourd'hui maintenant.
Ah, bah je savais même pas.
Ça a été annoncé via communiqué de presse juste avant la conférence, donc on pensait qu'ils allaient en parler pendant le show, mais en fait pas du tout. Et du coup, c'est 17€, enfin 16,90€ par mois.
Combien,
c'est possible ça? 16,90€.
D'accord.
Alors j'ai un doute. Est-ce que c'est par mois ou plus? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, par mois, ça me semble pas déconnant. Et du coup, ça y est, on peut y aller. On peut aller voir ce que ça propose. Donc j'ai vu rapidement.
Il y a des options par an ou pas, enfin par trimestre ou par
an? Alors je sais pas du tout. J'ai vu passer juste rapidement après. Je me suis mis devant la conférence, mais voilà, j'y repensais maintenant là, et donc voilà.
Effectivement, oui. Bah, pour ceux qui ne le connaissent pas, le PlayStation Now, c'est ce service de streaming de jeux PlayStation. Alors, il y a des jeux, une liste de jeux spécifiques PlayStation 3 et PlayStation 4 maintenant. Vous avez une période d'essai gratuite de 7 jours. Et vous pouvez donc les streamer même si vous n'avez pas de PlayStation. Donc ça peut être sur PC, sur télé. Il y a des télés qui Sony, je crois, qui ont le PlayStation Now intégré. Enfin, donc voilà, ça peut être intéressant pour certains. Oui, c'est un petit peu plus cher, mais c'est aussi, ça nécessite pas la console. Donc ça peut. Et si vous avez une bonne connexion, bien sûr, on connaît les problèmes de ce type de mode de jeu. Bon bah écoute, je crois qu'on va arriver à la fin de cet épisode un petit peu bonus. Du coup, je te remercie d'avoir été avec moi pour parler de tout
merci
ça.
Merci de m'avoir invité.
C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Est-ce que t'as un compte Twitter dont tu veux parler aux auditeurs pour qu'ils te retrouvent sur Internet? Ils veulent te dire comme Mario Odyssey les fait sourire eux aussi.
Donc moi, c'est Y-Tirapathy, donc Y-T-H-I-R-A-P-A-T-H-I sur Twitter. Donc je parle quasiment que de jeux vidéo et je retweete des féministes.
Très bien, merci beaucoup. C'est ce que tu dis à chaque fois.
Ouais,
on
ouais,
sent le
ça,
la
ça décrit,
provocation.
Ça décrit l'éditorial.
La ligne éditoriale de ton Twitter.
Voilà, c'est ça.
Bon, pour ma part, je suis NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis aussi sur FrenchSpin.fr où vous retrouverez d'autres émissions que je produis. Et vous pouvez également, bien sûr, aller sur iTunes pour laisser des reviews et des petites étoiles pour cette émission. Vous pouvez les faire comme Kaelissa ou Seijam 2011 qui ont laissé que du bonheur d'eux et actuellement condensé parfait avec 4 et 5 étoiles. Kaelissa d'ailleurs dit un seul bémol peut-être, c'est que ça ne parle pas beaucoup de RTS. Mais il est vrai que l'actualité n'est pas forcément très remuante dans le domaine. Effectivement, ouais. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Mais donc, vous pouvez aller laisser des étoiles sur le catalogue iTunes ou d'autres catalogues de podcasts que vous utilisez s'ils autorisent les reviews. Et bien sûr, vous pouvez dire à vos amis d'écouter l'émission Le Bouche à Oreille dans les podcasts, c'est toujours le meilleur moyen de découvrir des nouvelles productions qu'on apprécie. Donc dites à vos amis que vous appréciez le rendez-vous jeu si c'est le cas, ça sera un bon moyen de nous filer un petit coup de main. Et sur ce, bah écoutez, dans pas très longtemps, dans une même pas une dizaine d'heures, je vais partir pour les États-Unis pour la BlizzCon. C'est d'ailleurs Blizzard qui, pour une fois, j'ai accepté l'invitation parce qu'ils nous ont invités pour qu'on fasse un épisode de l'émission The Instance que je fais en anglais. Et ben on va la faire live à la BlizzCon sur une des scènes. Donc évidemment sur un truc comme ça. Moi je comptais pas y aller à l'origine. Et puis ils ont dit ben on vous invite pour ça. Donc j'ai interrompu mes principes et je me suis dit bon ben je vais accepter le truc parce que vraiment c'est une occasion que je veux pas rater. Et du coup si tout va bien, le week-end prochain on aura un épisode du rendez-vous jeu qui sera spécial BlizzCon pour voir ce qu'ils ont annoncé. Mais vraiment je suis content, merci beaucoup Johan d'avoir participé à l'émission parce que je voulais qu'on en fasse une avant cet épisode BlizzCon parce que BlizzCon on se concentrera bien sûr sur ce qui se passera là-bas. Mais il y avait tellement de trucs dont on voulait parler aujourd'hui que ça aurait été trop dommage de ne pas le faire. J'ai réfléchi un instant à faire un épisode enregistré dans l'avion.
Après quelque chose.
Après le rendez-vous tech dans l'aéroport, le rendez-vous jeu dans l'avion, ça aurait été intéressant. Mais bon, il y aura peut-être d'autres occasions à un moment. Mais donc voilà, pour le programme dans la semaine à venir, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez avoir l'actu de ce qui se passera là-bas. Et puis, bah, on se retrouve dans, allez, une semaine, j'espère, qu'on pourra faire un épisode là-bas pour un nouveau rendez-vous jeu. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite. Ciao, ciao.
À bientôt.